La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy.
Parce qu'on veut transformer la vie pour nous.
Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Vous la connaissez, chers auditeurs, comme une femme en noir, au regard ardent, apparue au balcon d'Édouard Manet, ce chef-d'œuvre présenté au salon de 1869. Et si vous devinez un tempérament, une personnalité, un charme impérieux, tous, vous ne la connaissez pas, sous la mention qui étonnamment manqua à son acte de décès, Berthe Morisot, artiste. Pas une artiste de circonstance, pas une artiste amateur, mais une artiste radicale, engagée au plus loin dans l'invention de la modernité. Installée dans la conversation créatrice avec les plus grands de son temps, Mallarmé, Manet, Monet, Renoir, Puvis de Chavannes et bien d'autres, avec lesquels elle dialogua, considérée par eux tous comme l'un des leurs. Se conclut dans quelques jours l'exposition de son œuvre au Musée d'Orsay, et pour bien comprendre l'importance de cette personnalité intense, de cette grande artiste, je vous propose de rencontrer avec moi sa biographe, Dominique Bonnat, et la commissaire de cette exposition, Sylvie Patry. Bonjour Sylvie. Vous êtes conservatrice générale du patrimoine, directrice de la conservation au Musée d'Orsay, spécialiste reconnue de l'impressionnisme. Vous préparez de nouvelles expositions sur ces grands sujets et vous l'accompagnez, Berthe Morisot, depuis longtemps. Et comment avez-vous extrait dans votre passion pour cette période ce personnage-là particulièrement ?
Alors c'était au tout début des années 2000 quand un portrait de Berthe Morisot par Manet est entré dans les collections nationales, le dernier portrait qu'il lui a consacré en 1874, et on a décidé à ce moment-là de consacrer une rétrospective à Berthe Morisot.
C'était quel portrait ?
C'était un portrait qui est aujourd'hui au Musée des Beaux-Arts de Lille, le portrait de Berthe Morisot à l'éventail avec sa bague, voilà. Et en fait, on a voulu consacrer une rétrospective à Berthe Morisot, puisque aucune exposition n'avait été consacrée à l'artiste depuis 1961. Donc elle était vraiment négligée dans l'histoire de l'impressionnisme. Et puis d'un point de vue plus personnel, c'est aussi une rencontre avec une œuvre, et c'est aussi une rencontre avec une personnalité à travers ses lettres, à travers sa peinture, évidemment.
Et Dominique Bonnat, quand on lit votre livre, puisque vous avez fait cette biographie de référence extraordinaire sur Berthe Morisot, d'ailleurs qui a reçu le Goncourt de la biographie, c'était en 2000 je crois, eh bien vous avez vous aussi exploré passionnément le travail et la vie de Berthe Morisot. Et dans le livre vous racontez un passage que j'ai trouvé très émouvant, c'est quand vous êtes dans la bibliothèque de l'Institut et que vous avez devant vous toute la correspondance.
Et oui, quand on écrit la vie d'un personnage, on a rarement affaire à un trésor. Et là, avec Berthe Morisot, il y avait un trésor, puisqu'il y avait toute sa correspondance, tout était soigneusement conservé, il y avait là les lettres de sa famille proche, de sa fille, de ses sœurs, de son mari, mais il y avait aussi les lettres de tous ses amis. Et ses amis, c'était Degas, c'était Monet, c'était Mallarmé et bien d'autres. Donc vraiment, toutes ces lettres qui reposaient dans des boîtes parler de Berthe, parler à Berthe, et pour la biographe, c'était un émerveillement évidemment et beaucoup d'émotion.
Alors il y a quelque chose sur laquelle on va revenir qui est dans quasiment la conclusion du livre, c'est que parmi toutes ces lettres abondantes et soigneusement conservées et aimées, il n'y en a que quatre d'Édouard Manet.
Oui, c'est le mystère Berthe Morisot. On connaît Berthe Morisot par son œuvre, mais on la connaît aussi par une série de portraits de Manet qui la représentent, et principalement en robe noire. Ce sont des portraits fascinants où elle est mystérieuse, parfois laide, on l'est dit par Manet, elle a quelque chose d'un Goya parfois sous son pinceau. Et ces 9 portraits semblent raconter une histoire, une intimité entre le peintre et son modèle. Mais il n'y a aucun témoignage, aucun écrit qui permette de raconter cette histoire d'amour qu'on a envie de rêver, mais qu'on peut seulement rêver. Et en effet, dans la boîte de correspondance, il n'y avait que 4 petits messages de Manet, d'ailleurs assez indifférents, puisqu'il l'appelle, il la vouvoie, il l'appelle madame, donc il y a vraiment une distance, un peu, alors qu'il y a peut-être 40 lettres de Degas ou de Monet, etc. Vous voyez, une disproportion telle qu'on se dit, y a-t-il un secret? Ces lettres ont-elles été détruites? Personne à ce jour ne peut répondre à la question.
Et donc nous allons la considérer du coup non pas comme une sentimentale, mais plutôt comme une artiste d'abord. Et pour cela, peut-être grâce à la présence de Gabriel Dufay ici avec nous dans le studio, acteur et metteur en scène, bien connu, sa voix est bien connue évidemment des auditeurs de France Culture, mais aussi des amateurs de cinéma et de théâtre. Nous allons écouter avec vous, Gabriel, quelques-uns des mots des amis de Berthe Morisot et de Berthe elle-même. Commençons donc.
Il y a si longtemps que je n'espère rien, et que le désir de glorification après la mort me paraît une ambition démesurée. La mienne se bornera à vouloir fixer quelque chose de ce qui passe. Oh, quelque chose, la moindre des choses. Eh bien, cette ambition-là est encore démesurée. Une attitude de Julie, un sourire, une fleur, un fruit, une branche d'arbre, et quelquefois, un souvenir plus spirituel des miens. Une seule de ces choses me suffirait.
Dominique, on entend dans ce mot la revendication, au fond, d'une relation au réel absolument déterminée. Le réel est ce qui m'enchante.
C'est une revendication douce et ferme. Toute la personnalité de Berthe est là, c'est-à-dire que la peinture pour elle, qui est un sacerdoce, qui est une vocation, comporte justement une sorte de courage en soi. Il a fallu qu'elle se batte beaucoup pour imposer d'abord sa vocation dans sa famille, mais aussi dans son milieu. Et la peinture qu'elle a décidé de faire, à une époque où les jeunes femmes de la bourgeoisie choisissent plutôt de la peinture en amateur, c'est-à-dire oui. La peinture sur porcelaine, des peintures de fleurs, etc.
C'est une activité d'agrément.
Elle l'a choisie vraiment en artiste et elle choisit une voie audacieuse qui n'est justement pas la voie académique.
Alors peut-être, Sylvie, pouvez-nous... comment est venue pour Berthe la passion pour la peinture? C'est la rencontre avec un maître, c'est un professeur, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors c'est un processus qui est à la fois long et rapide chez Berthe Morisot. Donc elle commence comme une jeune fille de son milieu, par prendre des leçons de dessin pour offrir un dessin pour l'anniversaire à l'occasion de l'anniversaire de son père. Et ensuite, ce qui déclenche un goût, mais véritablement une vocation artistique et une ambition professionnelle. Je pense que c'est à la fois la fréquentation des œuvres elles-mêmes. Berthe Morisot connaît très bien le Louvre, elle connaît très bien la peinture qui est en train de se faire dans les années 1860. C'est aussi la pratique, l'amour de la nature et du paysage. Elle travaille en plein air, en particulier aux côtés de Corot. Et ce qui est frappant, c'est qu'elle montre très jeune et très vite un discernement impressionnant sur l'état de la peinture française et comment participer à ce mouvement de renouveau qui a été initié par Manet. Donc il y a aussi des rencontres à la fin des années 1860 avec les plus grands artistes, ceux qui vont devenir les plus grands artistes de son temps, Manet, Degas.
Mais ça n'est pas venu comme ça parce que lorsqu'elle rencontre Corot, c'est à travers Corot qu'elle a découvert ces artistes ou est-ce qu'elle les connaissait déjà? Ses premiers professeurs étaient plutôt académiques, n'est-ce pas?
Oui, ses premiers professeurs étaient académiques. De toute façon, l'enseignement, donc l'école des Beaux-Arts, n'était pas accessible aux femmes à l'époque, jusqu'en 1897. Hein.
Donc pour les jeunes femmes qui voulaient devenir artistes, il y avait pas beaucoup de solutions. Soit on était d'un milieu modeste et on s'engageait plutôt dans les arts appliqués, les écoles d'art décoratif, ce qui n'était pas le cas de Berthe Morisot. Soit comme Berthe Morisot, on prenait des cours privés qui n'étaient pas des cours mixtes. Donc elle a eu comme professeur des artistes aujourd'hui un petit peu oubliés comme Chocarne, un peintre lyonnais qui s'appelle Guichard,
qui apparemment, pardon de vous couper, a eu beaucoup de discernement à son égard.
Absolument, il a tout de suite décelé.
Et à l'égard de sa sœur d'ailleurs.
Absolument, il a tout de suite décelé que Berthe et sa sœur Edma, avec qui elle prenait des leçons de peinture et qui, comme elle, s'est lancée au début dans une carrière professionnelle, il a tout de suite décelé une détermination, un goût et un regard. Je pense que ça, c'est important. Et la découverte des autres artistes, Berthe Morisot, elle va, comme jeune fille habitant à Paris, dans les galeries, dans les salons. Au salon, notamment au salon officiel, et elle commande très tôt, et la correspondance de Berthe Morisot est très importante pour sa personnalité, mais elle est aussi très importante pour la connaissance du milieu artistique de l'époque. C'est une source magnifique.
Mais dites-moi, Dominique Bonnat, sa famille s'intéresse à l'art, a un goût pour cela? Elle a trois sœurs, un frère,
oui,
des parents?
C'est une famille qui s'intéresse à l'art. Le père avait rêvé d'être architecte, la mère aurait pu être une pianiste professionnelle, et sa sœur, Edma, peint.
Et c'est plutôt bien, d'après ce que j'ai entendu.
Justement, c'est intéressant parce que les deux sœurs, on pourrait dire, pendant leur jeunesse, même leur enfance et leur petite jeunesse, peignent ensemble, progressent ensemble, ont les mêmes professeurs. Et Corot dira même aux parents Morisot que Edma est plus douée que Berthe à ses yeux. Et pourtant, des deux, c'est Berthe qui va rester. Edma va abandonner la peinture parce que Edma se marie, a des enfants et elle est peu à peu submergée par les tâches de la maternité. Alors que Berthe maintient le cap de la peinture, refuse les prétendants que sa mère lui présente et avec beaucoup de fermeté continue justement à assumer une certaine liberté d'artiste. C'est important, le don de l'artiste, mais important aussi le caractère, parce qu'il y faut beaucoup de volonté pour aller au bout d'un projet artistique.
Oui, c'est pas seulement un talent, c'est vraiment une pensée qui se construit et une action qui se construit
exact.
Au fur et à
c'est
mesure.
C'est un combat.
C'est un combat. Et l'exposition commence avec un portrait de Berthe Morisot, peint par sa sœur, Edma. Alors on voit, c'est un assez joli portrait, mais on voit l'aspect très classique et sombre néanmoins de la peinture plus traditionnelle de l'époque. C'est pourtant comme si sa sœur lui transmettait la palette. Qu'est-ce que vous pensez de cette image ?
Oh, j'y avais pas pensé, pourquoi pas, effectivement. Ce qui est intéressant aussi dans ce portrait, donc qui date de 1865, donc c'est vraiment au moment où les deux sœurs commencent à exposer au salon, donc avoir une vie d'artiste publique, si je puis dire. C'est un portrait qui se caractérise aussi par le fait qu'il représente Berthe Morisot en train de peindre, en tenue de travail, et c'est le seul, à ma connaissance, portrait de Berthe Morisot au travail par un autre artiste. Parce que Manet ne la représentera jamais comme une artiste.
Le pinceau est en diagonale, très affirmatif, la palette est là.
La palette est en évidence.
En évidence.
Absolument.
Et c'est une peinture très traditionnelle. Mais est-ce qu'à ce moment-là, la peinture, on est en 1865, donc est-ce que la peinture de Berthe elle-même, qui est accueillie au salon, est aussi sombre que celle de sa sœur?
Alors, là, ça vous posait une colle, entre guillemets, puisque les débuts de les peintures de Berthe Morisot avant 1869 n'ont pas été conservées. En tout cas, on ne les connaît pas aujourd'hui. Elle en a détruit certaines. C'était une artiste, jusqu'au bout de sa carrière, très exigeante, qui a soit détruit, soit abandonné des peintures qui ne la satisfaisaient pas. Donc, on connaît mal, en fait, les tout débuts de Berthe Morisot. Il y a tout lieu de penser que c'était une peinture à l'époque sombre et que le basculement vers la peinture claire, c'est plutôt la fin des années 1860.
Alors, Edma va se marier et abandonner la carrière de peintre. Et elle se marie avec un officier de marine, je crois, qui avait un lien néanmoins avec Manet ou avec quelques-uns des impressionnistes,
oui,
Dominique Bonnat.
Oui, il y a des liens, il y a toujours des liens dans cette famille Morisot. Dès qu'on trouve un personnage, il est en lien avec un autre, etc. Et donc c'est une sorte de toile d'araignée extraordinaire. Vous tirez un fil et vous trouvez un autre artiste tout au bout, etc. Donc, Pontillon, en l'occurrence, n'est pas du tout un artiste, en effet, c'est officier de marine. Il est très sévère dans l'analyse des tableaux. Si on ne représente pas un navire avec la voilure comme elle doit l'être, il est tout à fait mécontent. Mais Berthe, qui aime beaucoup sa sœur, va souvent à Lorient, enfin partout où il se trouve, où sa sœur se trouve avec sa famille, pour passer quelques jours avec elle. Et on aura de Berthe Morisot des toiles, non pas tout à fait des marines, mais enfin, oui, des bateaux, des quais, de ports, etc. Mais avec cette touche particulière de Berthe Morisot, qui ne devait pas forcément plaire à Pontillon, puisqu'il y a toujours une sorte d'évanescence, une légèreté dans la représentation même des bateaux.
Alors, puisque vous parlez de la touche, ça me fait penser à une très jolie critique du fameux critique Effroussi, grand collectionneur et grand critique de l'époque, où il caractérise assez joliment sa touche. C'est à l'occasion d'une exposition en 1880. Écoutons-le.
Charles Effroussi s'enthousiasme. Madame Berthe Morisot est française par la distinction, l'élégance, la gaieté et l'insouciance. Elle broie sur sa palette des pétales de fleurs pour les étaler ensuite sur sa toile en touches spirituelles, soufflées, jetées un peu au hasard. Les minois sont jeunes et frais, les poses ont de l'aisance, les mouvements de la grâce, vus à travers des tons gris fin, blanc mat et rose clair, sans aucune ombre, relevés de petites touches multicolores. L'ensemble donnant l'impression de teintes opalines, vagues et incertaines. Cette liberté fugitive, cette vivacité aimable, pétillante, fluide, rappelle Fragonard.
Et donc nous entendions la critique de ce grand critique d'art de l'époque, Sylvie Patry, on entend déjà plusieurs choses. D'abord, il y a une impression de touche poudrée et de vivacité, une sorte de, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, sprezzuta, un peu, hein. Et ça fait penser effectivement aussi à Fragonard, et pour des raisons précises, je suppose, il parle de Fragonard. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, je suppose qu'il parle de Fragonard pour moins de raisons. Assez rapidement, les critiques ont donc fait ce rapprochement entre Morisot et Fragonard sur une base stylistique, mais aussi sur... Il y avait l'idée que Berthe Morisot était une descendante par sa famille de Fragonard. On a refait des recherches dans les archives à l'occasion de l'exposition. On n'arrive pas à l'établir de façon documentée, donc ça reste une belle idée.
Mais pourtant, même Mallarmé en parle.
Oui, absolument. Mais d'un point de vue, ce qui est peut-être plus intéressant au-delà de la biographie, c'est que d'un point de vue, évidemment, artistique, esthétique, il y a une réelle filiation, continuité entre Berthe Morisot, Fragonard et le XVIIIe siècle français. Elle n'était pas la seule, hein, c'est le moment où on redécouvre tous ces artistes.
Je sais qu'elle regarde Boucher aussi.
Elle regarde Boucher, elle copie Boucher. Ouais. Elle décorera d'ailleurs son salon-atelier d'une copie de Boucher et elle demandera à son ami Monet de peindre un panneau en pendant de la copie de Boucher. Donc il y a vraiment le goût pour le XVIIIe siècle, pour cette touche très libre, fugitive, le terme utilisé par Effroussi, pour des couleurs claires, le XVIIIe siècle, Fragonard, Boucher, c'est clair, c'est lumineux. Et puis aussi, il y a quelque chose qui intéresse les impressionnistes et Berthe Morisot chez ces artistes du XVIIIe siècle français, c'est leur intérêt pour la vie moderne, pour leurs contemporains. Et c'est aussi au cœur de la peinture de Berthe Morisot, cette vie moderne au détriment des sujets historiques ou religieux, par exemple.
Dominique Bonnat, quand on entend parler de la vie moderne, on pense à Baudelaire. Est-ce que c'était une évidence, par exemple, de penser à Baudelaire pour Berthe Morisot ?
Oui, sans doute. En tout cas, dans les carnets de Berthe Morisot, on retrouve quelques citations de Baudelaire. Preuve donc qu'elle connaissait le poète et qu'elle s'inspirait de lui. Des phrases d'ailleurs assez sombres, assez noires, qui concernent la création et la souffrance de la création.
Alors, dans le texte qu'on entendait d'Effroussi, donc il y a cet aspect peintre de la vie moderne, évidemment, qui, je crois, va être très caractéristique. Il y a beaucoup de tableaux qu'il évoque, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, on a même consacré une section d'exposition à cette question de la vie moderne. On aurait pu dire que c'était aussi le sujet de toute l'exposition. Parce qu'il y a vraiment, chez Berthe Morisot, très vite, cette idée d'ancrer la peinture dans la vie, et à la fois donc dans le monde qui l'entoure, d'un point de vue du sujet, et puis ensuite dans la vie, comme en intégrant le mouvement, la lumière, dans la peinture, en fait. Donc,
mais est-ce que ce qu'on appelle la vie moderne, c'est de représenter des personnes dans le costume de l'époque, ou est-ce que c'est représenté sans le craindre des fumées à l'horizon qui laissent évoquer des usines dans les paysages? On n'est pas non plus dans la vie moderne des locomotives de Monet, par exemple.
Absolument. Mais il y a le texte de Baudelaire auquel vous avez fait référence, le peintre de la vie moderne, qu'à mon avis Berthe Morisot a lu. Je veux dire, elle connaissait, elle était très proche de Manet. C'est une grande lectrice. Ce que révèle aussi la publication intégrale d'un certain nombre de carnets, c'est la profondeur de sa culture littéraire. Elle mentionne beaucoup d'ouvrages aussi dans ses lettres. Donc pour moi, il ne faut aucun doute, comme l'a dit Dominique Bonnat, qu'elle connaissait ce texte de Baudelaire et qu'elle a lu Baudelaire. Il y a aussi un autre texte d'un critique un peu moins connu, romancier un peu moins connu aujourd'hui, qui s'appelle Edmond Duranty, sur cette question de la vie moderne. Et donc il y a la vie moderne, il y a la vie publique, urbaine, et c'est vrai que chez Baudelaire, c'est plutôt le flâneur, c'est plus le monde des cafés, le monde de la prostitution.
Les grands boulevards, en fait.
Les grands boulevards, et ensuite, effectivement, avec Monet, les gares, et puis un certain monde industriel avec d'autres artistes. Mais il y a un aspect de la vie moderne qu'on a un peu négligé pendant longtemps, c'est aussi la vie domestique, l'intérieur, la vie privée, et qui est revendiquée comme un sujet de la vie moderne et que va explorer Berthe Morisot avec beaucoup de maestria et de poésie aussi.
Dominique
Oui,
Bonnat.
Parce que en fait, elle est quand même bien différente de Manet quand il représente des gens qui travaillent, de Degas quand il représente des femmes à leur tube, où il y a davantage de réalisme, j'allais dire. Caillebotte, par exemple, qui lui s'attache vraiment à représenter les scènes de la vie des gens
travail,
qui travaillent au travail. Pour moi, il me semble que Berthe, même si évidemment elle s'inscrit dans la vie moderne, évidemment ses personnages portent des vêtements de son temps contemporain, et comme le dit Sylvie Patry, c'est vrai qu'elle ouvre la porte sur l'intérieur de la maison. Elle va montrer ce qu'on ne voit pas jusqu'à cette époque dans la peinture, c'est-à-dire la vie privée, la vie intime des familles. Mais en même temps, ce qui me frappe, moi, c'est un peu l'intemporalité de Berthe Morisot. Il me semble que même si elle représente des choses modernes, des choses de son temps, elle est très au-delà, c'est-à-dire qu'elle cherche autre chose. Pour moi, il me semble qu'elle cherche autre chose. Elle cherche ce qu'on a tant de mal à représenter, l'impalpable. Elle cherche vraiment, au fond, à saisir, et elle le dit, saisir quelque chose du temps qui passe. C'est le temps qui la passionne, c'est ce temps fugitif, ce temps qui s'enfuit et qu'on ne retient pas. Donc les petites scènes qu'elle représente, ce sont des pépites, en fait, des sortes de morceaux du temps arrachés au temps.
Ça me plaît beaucoup que vous le voyez comme ça, mais est-ce que ça veut dire que le sujet est si peu important qu'il laisse toute sa place à la peinture comme technique et comme recherche? Ou est-ce que ça veut dire que dans tous les sujets, et donc à ce moment-là, dans tous les sujets, nous pourrions faire une peinture totalement neuve? Est-ce que ce sont des sujets qui sont banals ou est-ce que ce sont des sujets qui sont importants parce qu'ils sont intimes?
Non, le sujet a son importance. Je crois que Sylvie Patry sera d'accord avec moi. Le sujet est très important pour Berthe. Elle s'attache à peindre un modèle. D'ailleurs, elle peint avec des modèles. Mais en même temps, elle va au-delà du sujet. Et c'est ça qui est passionnant avec elle.
Parce que sa peinture est d'une vivacité, ce que l'on peut voir comme une peinture poudrée avec un aspect très esthétique, etc. Mais il y a aussi une nervosité dans la touche, une violence. Elle griffe la peinture. Enfin, c'est vraiment audacieux. Je ne sais pas s'il y a un tableau auquel vous penseriez que vous voudriez nous faire aimer avec vous.
Oui, pour revenir justement au texte qui a été lu de Charles Frussy, où effectivement, bon, qui est un texte très intéressant, mais où il tire peut-être un peu trop Berthe Morisot du côté de la grâce. Effectivement, il y a une dimension de sa peinture qui est
qui est cette nervosité de la touche, cette gestualité, ce caractère très expressif. Et il y a une œuvre qui a d'ailleurs appartenu à Efrussi, qui me semble assez, assez emblématique, qui s'appelle L'Hiver et qui nous est prêtée par le musée de Dallas aux États-Unis, où on voit à la fois les zigzags très caractéristiques qu'elle trace avec le pinceau. Berthe Morisot n'hésitait pas à retourner ensuite son pinceau et à enlever de la peinture avec le pinceau. Elle grattait la toile, elle laissait du coup ces zones de grattage apparentes pour obtenir des effets de texture, et tout vibre en fait dans une peinture de Berthe Morisot. Il y a une sorte, toute la toile est couverte pour certaines peintures, parfois elle est laissée à nu, mais elle joue vraiment de cette touche, de ce mouvement. C'est une peinture tout le temps en mouvement.
Et c'est assez étrange parce que très souvent, il y a des façons de représenter le mouvement comme des lignes superposées continues qui montrent, comme le ferait un dessinateur aujourd'hui, un graphiste comme ça, qui montre la vitesse du mouvement, comme si c'était une chronophotographie quasiment. Hein, c'est assez frappant. Alors il y a une personne qui parle d'ailleurs dans un hommage qu'il lui rend de cette question, du sujet, d'une façon assez amusante. D'ailleurs, c'est Paul Valéry, mais peut-être avant que nous l'abordions, Dominique, vous pouvez nous dire quel est le lien entre Paul Valéry et Berthe Morisot.
Alors, Paul Valéry est un proche, on peut dire, de Berthe Morisot, dans la mesure où il va épouser sa nièce, Janie Gobillard. Donc, Paul Valéry entre dans la famille de Berthe Morisot, mais il entre dans la famille de Berthe Morisot après la mort de Berthe Morisot. Alors, il a connu Berthe Morisot, mais enfin, quand il entre dans cette famille, c'est après sa mort.
Mais est-ce qu'il c'était dans le cadre du cercle malarméen, non, qu'il a...
Oui, bien sûr. Valéry a une idole, c'est Stéphane Mallarmé. Il l'admire profondément. D'ailleurs, quand il va entrer à l'Académie française, quand on entre à l'Académie française, on doit prononcer l'éloge de son prédécesseur. Et il a dû prononcer l'éloge d'Anatole France. Et il s'est arrangé pendant tout le discours pour ne jamais prononcer le nom d'Anatole France. Il lui en voulait terriblement, car Anatole France avait rejeté Mallarmé d'une revue littéraire très importante de l'époque, et Valéry ne le lui avait jamais pardonné.
Je ne sais pas si j'aurais pardonné également.
Il y a beaucoup de passion chez Valéry, beaucoup de passion chez les impressionnistes.
C'est des moments de combat hein, entre eux, les familles et les impressionnistes, c'est des grands moments de division. Alors, donnons à Paul Valéry la parole. Gabriel, je compte sur vous.
Elle habite aux abords du bois qui lui procure ce qui lui suffit de paysage. Arbres, lueur du lac, glace parfois où l'on patine. Mallarmé, lyriquement enthousiaste de la forêt de Fontainebleau, la taquine assez souvent au sujet de ce goût qu'elle a pour les bosquets modérés et les profondeurs médiocres que l'on trouve entre la Porte Dauphine et la Seine. Le bois lui semble bien maigre, destitué de mystères et de sublimes futaies. Mais Berthe se contente de ce peu parisien de nature. Elle en tire ce qu'elle lui donne, des prétextes à œuvres exquises. Quoi qu'en dise Mallarmé, je ne sais rien qui fasse plus promptement et nécessairement songer à certaines pièces brèves et délicieusement musicales de lui que telle petite toile peinte au bord du lac par temps voilé. Cela est fait de rien. Un rien multiplié par l'art suprême de la touche. Un rien de brume. Des soupçons de cygne. Prestige d'une brosse qui frotte à peine le tissu. Cet effleurement donne tout. L'heure, le lieu, la saison, le savoir, la promptitude qu'il confère, le grand don de réduire à l'essentiel, d'alléger à l'extrême la matière, et par là, de porter au plus haut point l'impression de l'acte d'esprit.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'Art et la Matière et nous parlons de Berthe Morisot en compagnie de Dominique Bonnat, la grande écrivain, et évidemment de Sylvie Patry, la commissaire de l'exposition Berthe Morisot qui a lieu en ce moment et que vous allez vous précipiter de voir avant sa fin au musée d'Orsay. Extraordinaire texte, Dominique Bonnat, qu'en pensez-vous ?
Oh oui, quand Valéry s'exprime, là, on est entraîné dans les nuées, c'est extraordinaire. C'est très très beau. Il avait une grande affection, une grande admiration pour Berthe Morisot, ce qui est un musée amusant pour l'anecdote, c'est que Berthe, à la fin de sa vie, donc avec son mari, avait fait construire une maison, en effet près du bois de Boulogne, dans une rue qui s'appelait à l'époque la rue de Villejuste. Et Paul Valéry viendra habiter cette maison avec son épouse Janie, après son mariage. Et la rue maintenant s'appelle la rue Paul Valéry.
C'est joli.
Alors c'est très joli, voilà. Il y a une sorte d'une filiation évidente. Mais tout ce qu'il dit de Berthe est évidemment très beau. J'aime moins quand il dit, par exemple, j'ai pas pu m'empêcher d'oser critiquer Paul Valéry, parce qu'il dit « œuvre exquise ». Et quand on dit aujourd'hui « œuvre exquise », peut-être était-ce un compliment au XIXe siècle, mais aujourd'hui, non. Et effectivement, ce côté exquis de la peinture de Berthe, il me semble qu'elle a dû batailler pour qu'on lui reconnaisse d'autres qualités, pour qu'on lui reconnaisse l'intensité, pour qu'on lui reconnaisse la force, pour qu'on lui reconnaisse l'originalité. Il y a tout ça aussi chez Berthe Morisot. C'est pas seulement exquis parce que c'est bleu, blanc, rose, des sujets féminins, des enfants au berceau. C'est beaucoup plus fort que ça. Il y a une mélancolie, il y a presque une tragédie chez Berthe parce qu'elle a une intuition peut-être que sa vie va être cassée à un moment donné, qu'elle va mourir. Je ne sais pas si c'est ça, cette intuition terrible, mais il y a quelque chose. D'ailleurs, vous savez, ces personnages sont tristes, ils ne sourient pas, il n'y a pas un sourire sur les peintures de Morisot. Même les jeunes mères ont un air angoissé. Donc il y a cette dimension-là qui souvent n'a pas été soulignée, et il me semble que là, au musée d'Orsay, avec cette exposition, on peut mesurer cet aspect de la peinture de Berthe, et c'est nouveau.
Sylvie Patry, vous ressentez cela aussi ?
Oui, absolument. Nous, c'était vraiment une des ambitions de l'exposition du musée d'Orsay. C'était vraiment de mettre l'accent sur cette dimension de peintre et de rompre avec des clichés qui sont liés à une peinture qui serait féminine. Donc, comme Dominique, effectivement, ce terme d'exquis, de gracieux, d'élégant, etc., ce qui sont des compliments qui ont été décernés à Berthe Morisot, on a cherché à rompre avec cette lecture.
On sent fortement. Vous avez sous les yeux, je vous vois regarder ce tableau qui m'a fasciné dans l'exposition La Nourrice de Copenhague. Et c'est un tableau que j'ai trouvé incroyable parce qu'on a la sensation que c'est une dame et son bébé, ce qui est le sujet le plus banal. Je pense à Degas, je crois qu'il disait ça de Marie Cassatt. On dirait le petit Jésus avec sa nurse anglaise et avec sa cruauté habituelle. Je crois que c'est dans les souvenirs de Vollard. Et quand on voit la façon dont c'est exécuté, le mot exécution est d'ailleurs presque insuffisant tellement c'est violent.
Oui, Berthe Morisot va vraiment à l'essentiel et elle concentre vraiment la force de la couleur, le pinceau. C'est le pinceau qui met tout en place, qui met ses personnages en place. On a des couleurs très, parfois très vives, très fortes. Et ce qui est très impressionnant dans son œuvre, c'est que elle néglige en fait tout ce qui est anecdotique. Il n'y a pas de récit, c'est pas joli en fait. Elle cherche vraiment à jeter en quelque sorte son motif, ses personnages, ses modèles sur la toile avec beaucoup de poésie et aussi très souvent une grande mélancolie des personnages qui sont dans leur dans une rêverie, dans une méditation assez profonde et on a du coup un aspect non fini aussi, esquissé qui est vraiment très important dans son œuvre et je pense que c'est une des impressionnistes qui va le plus loin dans cette question comme ça du non fini comme expression de la volonté de l'artiste. C'est l'artiste qui décide quand c'est complet, quand c'est fini et ce ne sont plus des critères.
Mais là, dans le tableau que vous regardez, mais la question du non fini est une question évidemment très importante à cette période-là, particulièrement dans l'histoire de la peinture, que ce soit chez Cézanne, par exemple. Évidemment, ou chez Toulouse-Lautrec. Là, non seulement c'est pas fini, mais si le sujet n'était pas là, on aurait une peinture quasiment abstraite. On est à la frontière du non-représentatif.
Oui, Berthe Morisot n'est pas dans une. Elle travaille toujours à partir d'un modèle, donc on identifie toujours souvent le sujet. On a encore des débats sur dans certains tableaux en se demandant ce qu'elle a bien voulu représenter, parce que parfois on a des zigzags, des taches de couleurs comme ça qui sont parfois difficiles à lire. Et c'est en ce sens effectivement qu'elle est à la frontière de l'abstraction dans certains tableaux. Et puis surtout, à la fois on a ce dont on parlait un petit peu plus tôt, cette évocation de la vie moderne, mais en aucun cas Berthe Morisot a une démarche de chroniqueuse ou en aucun cas ne veut documenter en fait une période ou restituer des usages sociaux. Elle veut juste capturer une urgence, une ambiance, une contemporanéité. Mais elle ne remet pas forcément toujours en contexte. Donc on a aussi ces fonds qui sont très, très colorés, très gestuels, et une intégration des personnages avec leur environnement qui va très loin en fait.
Alors il y a un aspect que je trouve très important aussi, sur lequel je voudrais que vous nous parliez, peut-être Dominique Bonnat, vous allez pouvoir nous dire quelque chose là-dessus, c'est l'échange avec les autres artistes, c'est-à-dire puisqu'elle est dans le cercle, dès 1974 elle expose avec eux, qu'est-ce qu'ils échangent? Alors peut-être avant d'en parler, on va écouter un hommage que lui rend Mallarmé, dans le catalogue de l'exposition posthume qu'elle fera chez Durand-Ruel juste après sa disparition.
Féerie, oui, quotidienne, sans distance, par l'inspiration plus que le plein air enflant un glissement le matin ou après-midi de signes à nous, ni au-delà que ne s'acclimate des ailes détournées et de tout paradis, l'enthousiaste inéité de la jeunesse dans une profondeur de journée. Rappelez, indépendamment des sortilèges, la magicienne tout à l'heure obéit à un souhait de concordance, qu'elle-même choya, d'être aperçue par autrui comme elle se pressentit. On peut dire que jamais elle ne manqua d'admiration ni de solitude. Plus, pourquoi, il faut regarder les murs, au sujet de celle dont l'éloge courant veut que son talent dénote la femme, encore aussi qu'un maître. Son œuvre, achevée, selon l'estimation des quelques grands originaux qui la comptèrent comme camarade dans la lutte, vaut à côté d'aucun, produit par un d'eux et se lie exquisement à l'histoire de la peinture, pendant une époque du siècle.
Nous venons d'écouter un très beau texte de Mallarmé en hommage à Berthe Morisot, et on comprend que Dominique Bonnat, ça reprend ce que nous disions, c'est-à-dire que ceux qui sont en lutte la considère comme une lutteuse avec eux.
Certainement, certainement. Il faut imaginer, en écoutant ce texte de Mallarmé, Mallarmé venait dîner chez Berthe au moins une fois par semaine, qu'il était là, qu'il parlait, qu'il récitait des poèmes. Donc, cette famille vivait dans cette atmosphère poétique. Non seulement Mallarmé, mais bien d'autres écrivains venaient. Et il y avait là Degas, il y avait Renoir qui venait très souvent. Donc il y a eu une véritable vie d'échange. Et c'est une époque, d'ailleurs aujourd'hui je crois que les artistes sont un peu en manque de tout cela, mais c'est une époque vraiment où les artistes se rencontrent, se fréquentent, sont amis. Et toutes ces relations-là, forcément, influencent les personnalités, nourrissent leur inspiration, leur art. Il y a probablement des échanges aussi sur la technique même artistique, comment peindre. Renoir, par exemple, recommande des modèles. Il y a des lettres de Renoir pour dire prenez tel modèle à tant de sous, on comptait en sous à ce moment-là. C'est toute une atmosphère, tous ces peintres vivaient ensemble. D'ailleurs, quand Berthe perd son mari et qu'elle craint de laisser sa fille seule, elle choisit deux tuteurs pour sa fille, de ce qu'on appelle les subrogé-tuteurs, Renoir et Mallarmé. C'est tout dire.
C'est extraordinaire. Hein, et alors, Jean Renoir, le fils de Renoir, dit sa maison était comme un foyer d'authentique civilisation parisienne. C'est joli, qu'est-ce que vous en pensez, Sylvie Patrie?
Oui, ça traduit l'atmosphère dans laquelle travaillait Berthe Morisot. Effectivement, ses échanges avec les autres peintres, avec les écrivains. Elle est aussi grande amatrice de musique. Et je Je trouve que sa peinture s'en ressent, en fait, de ce lien avec toutes les grandes figures artistiques de son temps. Et ça, je trouve que c'est une caractéristique de Berthe Morisot, et ça témoigne de sa détermination, parce que ça arrive très tôt dans sa vie, en fait. Dès le milieu des années 60, c'est elle qui demande à ses parents de travailler avec Corot. Elle a déjà repéré que Corot, c'est plus important que Chocarne, par exemple. Et du coup, elle va ensuite, quand elle fréquente à la fin des années 60, quand elle rencontre Manet, Fantin Latour, Degas, elle se choisit, en fait, je veux dire, elle se choisit, avec le soutien de sa famille, un milieu artistique qu'elle va nourrir et qui va la nourrir aussi.
Alors, il y a deux grands rendez-vous, il faut dire, dans la vie parisienne de ce micro-milieu, parce que c'est très très peu de gens. Il y a le mardi de Mallarmé et le mercredi de la famille Morisot, n'est-ce pas ?
Oui, parce que les femmes avaient leur jour pour recevoir. La maison était ouverte ce jour-là et les amis savaient qu'ils pouvaient venir sans même prévenir. Non, je songe vraiment à cette extraordinaire harmonie entre tous ces peintres qui étaient amis, ces peintres qui avaient des liens fraternels. Quand elle meurt, Renoir était en train de peindre à côté de Cézanne, en Provence. On lui a envoyé un télégramme pour lui annoncer cette mort. Et il a oublié, il a jeté son pinceau, il a couru à la gare, oubliant sa canne et son chapeau, pour être à son enterrement. Et le jour de l'enterrement, il a dit qu'il se sentait seul dans un désert. Donc elle a été d'une certaine façon, en dehors de sa dimension d'artiste, cette grande artiste de la lumière a été le cœur battant finalement de l'impressionnisme.
C'est très impressionnant parce que il y a aussi, non seulement d'un point de vue affectif, elle était ce cœur battant, mais il y a dans l'échange des sujets, par exemple Sylvie Patry, les meules, c'est un sujet qui est venu chez elle avant Monet, si je ne me trompe.
Oui, il y a des sujets qu'elle a explorés avant d'autres artistes. Elle avait imaginé des nénuphars pour illustrer des poèmes de Mallarmé. Et on voit effectivement cette circulation des motifs. Et Berthe Morisot, par exemple, a traité un sujet moderne par excellence, qui est les femmes à leur toilette, des femmes se coiffant, des femmes en déshabillé. Elle n'est pas la seule à l'avoir fait. Beaucoup d'autres impressionnistes l'ont fait. On pense tout de suite à Degas. Mais par exemple, c'est la première à avoir exposé dans une exposition impressionniste, ces sujets-là en 1876, et ensuite Degas en expose, elle en réexpose. Donc il y a toujours une conversation qui se crée comme ça entre les artistes. On a aussi, elle a exploré des sujets avant Manet, par exemple, avant Édouard Manet. Elle a pratiqué le plein air avant Édouard Manet.
Elle l'a poussé à pratiquer le plein air, non ? C'était presque un défi,
parce
non ?
Parce que lui, au départ, n'était pas forcément convaincu, en fait, par l'intérêt du plein air. Bon, Degas restera très, très résistant, comme vous le savez, mais Manet se laissera convaincre. Elle a par exemple peint un tableau qui est dans l'exposition, qui montre l'une de ses sœurs habillée en noir. C'est un tableau qui vient d'être acquis par un musée japonais, qui s'appelle « Femme et enfant au balcon », qui est à Tokyo maintenant. On voit une femme en noir accoudée à une balustrade et avec une vue sur Paris dans le reste de la composition. Et ça, c'est une thématique avec elle est accompagnée d'une enfant, cette femme en noir est accompagnée d'une enfant qui tourne le dos et qui regarde Paris à travers ce balcon. On est en 1871-72 et une année après, Manet peint un tableau qui est aujourd'hui à Washington, qui montre une enfant nous tournant le dos et regardant elle les voies ferrées. C'est un tableau qui est aujourd'hui à Washington. Donc là, on voit Berthe Morisot explorer un sujet qui est ensuite réexploré par Édouard Manet.
Alors, il y a une façon de faire en sorte que les enfants et parfois les personnages tournent le dos, qui est très très fréquente au fond chez elle. On a l'impression que les jeunes filles et les femmes frappent à la fenêtre pour sortir.
Pour sortir, peut-être. Effectivement, il y a on a d'ailleurs consacré une salle de l'exposition à cette question de des espaces liminaires, des espaces frontières, des fenêtres, des balcons, des bow windows qui sont très présents dans son œuvre. Donc soit on peut y voir le signe du confinement des femmes et des enfants dans la sphère domestique, c'est une hypothèse. On peut aussi voir la recherche de Berthe Morisot d'une certaine ambiguïté, une façon d'ouvrir justement vers l'extérieur, parce que la façon dont elle peint ses seuils, ses balcons, ses fenêtres sont toujours des moments de grande porosité entre l'extérieur et l'intérieur, donc on n'a pas l'impression que les personnages sont dans une prison. Et puis enfin, il y a un troisième aspect qui à mon sens très intéressant, c'est qu'elle s'en sert vraiment en artiste, et donc du coup elle crée des espaces qui sont très qui n'obéissent pas aux lois de la perspective traditionnelle. On a du mal à se repérer dans un tableau.
Il y a des miroirs qui ne reflètent pas le visage.
Absolument, il y a des miroirs qui ne reflètent pas ce qu'ils devraient refléter. Il y a des fenêtres qui ne se ferment pas, qui ne se finissent pas. Il y a des fleurs qui sont dehors, mais aussi dedans.
Alors, les bow windows anglais, en particulier, sont des grandes réussites. Vous en avez fait d'ailleurs la couverture du catalogue. Il y a ce très très beau tableau qui représente Eugène, son mari, Eugène Manet, le frère d'Edouard. Et où cela, cette fois-ci, les femmes sont à l'extérieur et l'homme est à l'intérieur.
Oui, c'est un des plus beaux tableaux de Berthe Morisot qui nous a été prêté par le musée Marmottan, qui s'est montré très généreux à l'égard du musée d'Orsay pour cette exposition. Et on a vraiment un renversement des rôles complet, effectivement. C'est Eugène qui est cantonné à l'intérieur et qui regarde l'extérieur. Et c'est une femme et un enfant, et une enfant qui sont sur un quai. Et on a une série d'écrans, en fait. On a ces fleurs à l'intérieur. On a un rideau, on a une clôture, on a une fenêtre.
Très, très complexe. Hein. C'est aussi complexe que le bar aux Folies Bergères de Manet.
Absolument, on a des effets comme ça de cadre, d'image dans l'image, de tableau dans le tableau, qu'on retrouve d'ailleurs chez Berthe Morisot. Pour moi, c'est une constante, en fait, ces effets d'enchâssement, de mise en abîme, qui est aussi la part d'esprit, entre guillemets, ce dont on parlait Paul Valéry, hein, l'esprit, l'acte d'esprit, très présent aussi dans la peinture de Berthe Morisot, même s'il y a une grande sensibilité.
Alors, quand vous dites ça, je pense à, parce que vous parlez de la représentation, dans la représentation en fait, et je pense à ce tableau que je trouve extraordinaire de 1881, Les Blanchisseuses, où il y a ces draps suspendus, peints et non peints à la fois, où la toile réapparaît à l'intérieur du drap, et il n'y a plus que quelques touches de peinture qui font évoquer le blanc, lointain d'ailleurs de ces draps. C'est stupéfiant comme tableau. Et il me semble qu'il y a un tableau de Manet qui est en relation avec cela.
Alors il y a un tableau de Manet qui s'appelle Le Linge, donc qui représente le même sujet, une blanchisseuse. Qui était chez Berthe Morisot, absolument, qui est aujourd'hui à la Fondation Barnes à Philadelphie, mais qui a été dans le salon de Berthe Morisot où elle recevait tous ses amis, était aussi un véritable musée. Hein. Quand on voit les photos, non pas du temps de Berthe Morisot, mais du temps de sa fille, Julie Manet, la plupart des tableaux que l'on voit sont aujourd'hui dans les plus grands musées du monde. Hein. Berthe Morisot, dans ce tableau dont vous parlez de 1881, effectivement, elle laisse la toile, alors là elle a carrément peint à même la toile. En général il y a la toile, il y a une préparation et les artistes peignent. Elle a peint à même la toile, ce qui fait qu'on a ces effets transparents, c'est que la toile affleure à la fois dans les draps, à travers les feuillages et autour, et sur tout le pourtour de la composition, ce qui est assez caractéristique de l'œuvre de Berthe Morisot. Ce qui est important pour ce tableau, c'est que c'est une des œuvres qu'elle a le plus souvent exposées. Parce que le fait de faire un tableau très rapidement, très esquissé, ça fait partie de la pratique artistique, mais on considérait que ça devait rester dans l'atelier comme un exercice. Et là, on a véritablement cette idée que l'artiste est là pour peindre une impression, ou pour restituer une impression. Et du coup, c'est bien ce que Berthe Morisot nous livre ici. C'est une impression et une œuvre en prise directe avec la vie.
Il faut dire que ce n'est que 6 ans avant que le mot impressionnisme a été évoquée à cause de cette impression par un critique d'art de l'époque, et qu'elle était dans ce groupe et elle ne l'a jamais quitté. Contrairement à Manet, Dominique Bonnat, qui lui avait fait un choix totalement différent, c'est de ne pas appartenir à ce groupe indépendant des impressionnistes.
Oui, il avait même déconseillé à Berthe Morisot de s'inscrire, en somme, dans un groupe. Il considérait qu'il fallait garder son individualité et ne pas faire partie d'une école. Manet s'est toujours gardé de créer une école, en fait. Il n'aimait pas cette idée.
C'est comme s'il voulait triompher à l'intérieur de l'establishment.
Oui, il y a une sorte de solitude en même temps chez lui. Il est à part. Il est à part, il est unique, il n'est pas dans une école.
Et donc c'est Degas qui attire Berthe Morisot dans l'affaire.
Alors peut-être davantage, oui. Ils sont plusieurs. Elle est en tout cas longtemps la seule femme de l'impressionnisme. Elle est la seule à signer la charte de l'impressionnisme. Plus tard, il y aura Marie Cassatt qui viendra, il y aura Marie Braquemont. Mais enfin, c'est Berthe Morisot qui est au départ la femme de l'impressionnisme dans cette aventure.
On ne peut pas dans cette émission, même si on insiste vivement sur la peinture évidemment de Berthe Morisot, ne pas parler de la rencontre avec Manet. Il faut que vous nous en disiez un mot. Ils se sont rencontrés, ils se sont admirés.
Oui.
Comment ça s'est passé? Qui les a présentés?
Les familles étaient liées, les familles se connaissaient. On a affaire à une bourgeoisie parisienne. Les pères étaient de hauts fonctionnaires. Donc les Manet et les Morisot se connaissaient. Mais c'est surtout au Louvre que les jeunes filles Morisot ont pu connaître davantage Édouard Manet.
Parce qu'elles avaient le droit d'y copier, c'est cela?
Parce qu'elles venaient copier les chefs-d'œuvre au Louvre, comme beaucoup d'étudiants en peinture. Plus encore que les leçons de dessin, le plus important, c'est d'aller copier les chefs-d'œuvre au Louvre.
Donc c'était une bonne situation.
Et Manet aussi.
Vous racontez dans votre livre que c'est une bonne situation pour les personnes pour se pencher sur l'épaule de ces jeunes femmes en train de peindre.
Sans doute. Il y a des flirts qui se sont esquissés au musée du Louvre entre tous ces peintres. Et en tout cas, c'est là que Berthe et Edma Morisot ont connu les frères Manet. Car le mari de Berthe, le frère d'Édouard Manet, peignait lui aussi. Mais il peignait un peu en secret, voilà, on ne connaît pas, enfin ses œuvres n'ont pas été vraiment exposées. Il s'est surtout consacré à son épouse en allant accrocher ses toiles, etc.
Je crois que c'est ce qu'il pouvait faire
de
mieux.
Je me demande, après toute cette conversation, tout d'un coup, je me dis, oui, est-ce qu'un des plus grands drames, finalement, de la vie de Berthe Morisot, ne serait pas que Manet, qui tout de même la représente 11 fois par sa peinture, 9 fois en noir, 2 fois en blanc, qui insiste sur elle, qui revient sur son visage, sur son mystère, pas une seule fois ne la représente un pinceau à la main, avec, d'une certaine façon, lui reconnaissant ce statut d'artiste. Je trouve qu'il y a là quelque chose qui fait mal.
Sylvie Patry, qu'est-ce que vous en pensez?
Il a quand même il a possédé des œuvres de Berthe Morisot. Donc du coup, il la considérait vraiment comme une artiste. Et en 1874, quand elle expose pour la première fois avec les impressionnistes, c'est Degas qui écrit à la maman à la mère de Berthe Morisot pour l'inviter comme il se devait, parce qu'elle était encore jeune fille à ce moment-là, qui l'invite à exposer avec les impressionnistes. Donc Manet lui déconseille, puis Vichavan aussi. Donc en fait, elle rompt deux fois, si vous voulez. Elle rompt avec le milieu du salon, la carrière académique, et elle rompt aussi avec les indépendants, l'indépendant qui est Manet, qui lui déconseille cette voie, puisque pour lui, il faut triompher chez l'ennemi, en fait, sur le terrain de l'ennemi, il ne faut pas se marginaliser. Donc c'est vraiment une décision très forte de sa part, mais quand même, en 1874, il y a, parmi les œuvres que présente Berthe Morisot, il y a une œuvre qui s'appelle Cache-Cache, qui est dans l'exposition, qui est en collection particulière aujourd'hui, et qui est prêtée par Manet, et le nom de Manet est affiché, quand même, est écrit dans le catalogue de l'exposition impressionniste, prêté par M. Édouard Manet. Donc il la soutient quand même, enfin, il lui déconseille.
Je pense qu'il aimait beaucoup Berthe, de toute façon, n'est-ce pas? Et puis, ils étaient proches, même sans parler de choses secrètes, mais ils étaient proches, ils étaient très amis. Il était le beau-frère de Berthe Morisot, qui est tout de même Madame Manet pour l'état civil. Enfin,
il a arrêté de et la donc, peindre quand vous l'écrivez.
Oui.
Il a arrêté de la peindre quand,
oui.
Et le dernier tableau, c'est quand elle a une bague au doigt.
Exactement.
Qui est représentée dans le tableau,
oui,
comme le sujet.
Le dernier portrait de Berthe par Manet, c'est le moment où elle épouse son frère. À partir de là, il ne la peint plus jamais. Mais ils ont passé quelques vacances ensemble. Ils ont peint Julie, la fille de Berthe Morisot, sur le même motif. Il y a un Julie à l'arrosoir de Berthe, un Julie à l'arrosoir de Manet, avec le même petit chapeau. On peut trouver toutes sortes d'anecdotes qui rapprochent les peintres. Et effectivement, Sylvie Patry l'a rappelé tout à l'heure, c'est tout de même Berthe qui ouvre Manet à la peinture hors de l'atelier, à la peinture de la nature, des fleurs notamment, enfin voilà. Et puis il y a aussi l'anecdote de ce tableau au début de la carrière de Berthe, où Manet vient chez ses parents, elle habite encore chez ses parents, à son atelier, regarde le tableau qu'elle est en train de peindre, demande un pinceau, un chiffon, et commence à gribouiller sur le tableau de Berthe et refait en partie un morceau du tableau à la grande fureur de Berthe Morisot, qui n'a pas du tout envie de cette incursion dans sa peinture.
De quel tableau s'agit-il, en fait ?
Il s'agit d'un tableau qui est conservé à la National Gallery de Washington, qui représente la mère de Berthe Morisot et Edma, sa sœur, qu'elle a présentée au salon de 1872. Elle était absolument furieuse de l'intervention intempestive de Manet. Et donc c'est un tableau qui ne peut pas voyager parce qu'il a été donné par un collectionneur.
Vous reconnaissez ce qui est de Manet et de Berthe ?
Alors, on a évidemment interrogé nos collègues de la National Gallery de Washington.
Vous y avez joué. Ouais.
Une restauratrice a regardé et il semblerait en effet qu'il y ait deux mains. Donc, voilà. Édouard Manet est bien intervenu à la marge quand même, hein, alors, pas sur les visages.
Dans les grandes amitiés de Berthe, il y en a une, on l'a entendu tout à l'heure, que je trouve plus touchante que toutes les autres, quoi qu'elles le soient toutes, objectivement, que ce soit Degas, Renoir, le Puvis de Chavannes, son courtisan, etc., qui sont toujours des amitiés très émouvantes et d'une profondeur et d'une sérénité totale, c'est celle de Mallarmé. Et Gabriel, si vous voulez bien, on ne va pas lire d'autres lettres de Mallarmé, mais ce qu'on pourrait faire, c'est lire les adresses que Mallarmé inscrit sur les enveloppes.
À Madame Eugène Manet, Berthe Morisot. Apporte ce livre quand naît sur le bois l'aurore amarante, chez Madame Eugène Manet, rue au loin Villejuste, 40.
J'imagine la joie du facteur recevant cela. Gabriel, est-ce que vous pouvez nous en lire une ou deux autres ?
Santé tendre dans l'herbe verte, naïf distributeur, mets-y du tien. Cours chez Madame Berthe, Manet, par Melan à Mézy. Ce mot qui sur elle planait, à Portrieux, la roche plate, retraite des dames Manet, dans les côtes du Nord, éclate. Leur lévrier industrieux, aux dames Manet, va remettre, côte du Nord à Portrieux, la roche plate, cette lettre.
C'est quand même, Dominique, c'est merveilleux.
Oui, le miracle, c'est que les lettres parvenaient à Berthe.
Oui, c'est un miracle.
Malgré l'adresse rédigée en vers.
Vous, comme écrivain, le tentez-vous parfois ?
Je n'ai encore jamais essayé.
Est-ce que vous avez l'impression que, ça y est, Sylvie, vous avez réussi votre défi ? Nous voyons tous, effectivement, Berthe comme un des grands artistes. Il nous reste 2 minutes pour l'évoquer. Est-ce que c'est réussi ?
Alors, j'ai l'impression que l'exposition, effectivement, cette fois, replace vraiment Berthe Morisot dans l'histoire de l'impressionnisme, dans l'histoire de l'art tout court. Et j'en juge à la fois par la fréquentation de l'exposition, qui est très bonne, l'impact de l'exposition dans la presse. Et une presse très diversifiée, en fait. Cette semaine, il y avait Charlie Hebdo. Ça va vraiment, le spectre est large. Et pour moi, ça veut dire qu'enfin, Berthe Morisot sort du monde des spécialistes de la peinture pour atteindre le grand public, même si le livre de Dominique Bonnave est déjà fortement contribué, il est en poche, très accessible, à faire connaître Berthe Morisot.
Ça a été un grand succès, je l'ai lu avec une joie folle. Merci infiniment Dominique, merci Sylvie pour cette très belle exposition.
La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un moment.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu Sylvie Patry, la commissaire de l'exposition Berthe Morisot qui est au musée d'Orsay jusqu'au 22 septembre prochain, et Dominique Bonnat de l'Académie française pour sa magnifique biographie de Berthe Morisot. Mais vous retrouverez toutes les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. Lecture des textes en direct, Gabriel Dufay. Merci Gabriel. Une émission conçue en collaboration avec Seam Boutata, Prise de son, Pierre Monteil, réalisation évidemment Franck Lilin. La semaine prochaine, nous parlerons de Van Gogh et de son chef-d'œuvre, le fameux Summer de la collection Burle, qui est présenté à Arles en ce moment. À 15h30, vous retrouverez Victor Massé de l'Épinay pour le rayon de BD. Et dans quelques instants, Personnages en personne par Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.